En cette conclusion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, après qu'elle a été inaugurée ici la semaine dernière par un passage du prophète Ésaïe qui évoquait un presque rien qui peut tout changer, j'ai été heureux ce dimanche de trouver sur ma route de prédicateur ces deux passages, ceux du livre de Jonas, celui du livre de Jonas et celui de la première aux Corinthiens, qui me donne l'occasion d'évoquer au cœur de notre actualité particulière ce que j'estime être un complet malentendu d'interprétation qui, une fois qu'il serait résolu, pourrait donner à toutes les églises une occasion de commencer à se refaire une santé, sinon une image. Ce passage de Corinthiens, il m'a toujours intéressé et en même temps toujours particulièrement repoussé. Non pas à cause de l'interprétation que je m'en faisais, mais à cause du poids de l'influence négative qu'il a pu produire sur les consciences, ces consciences envers lesquelles il semblerait peine perdue d'entamer une nouvelle discussion tant l'affaire semble entendue pour elle, à savoir que le christianisme est cette sorte de religion que je vais maintenant vous décrire. D'une part, il serait la religion du statu quo. Paul, l'auteur de cette lettre, invite les gens à rester dans l'état où ils sont. Célibataire, marié, qu'importe. Mais qu'ils restent comme ils sont, tout en précisant que si toutefois ils se mariaient, sans que cela soit conseillé évidemment, ce serait pas grave. En revanche, il leur est interdit de divorcer, de rompre. Oui, voilà ce que serait le christianisme, la religion de la fin du mouvement. Au-delà même de l'aspect traditionnel apparent, au-delà de la méfiance qui semble effleurée de ce texte, de la méfiance du corps, de la chair ou du désir, bien plus gravement, il serait la religion de la fin du mouvement, la religion de l'immobilité, la religion du « plus personne ne bouge », plus personne ne change, plus personne ne vibre, plus personne n'envisage, plus personne ne désire, plus personne ne revendique. En poussant encore plus, le christianisme serait tout bonnement la religion de la mort. D'autre part, en suivant les traits de l'influence qu'a exercé ce texte, le christianisme serait aussi la religion du faux semblant, du détachement, que ceux qui pleurent soient comme s'ils ne pleuraient pas et que ceux qui se réjouissent soient comme s'ils ne se réjouissaient pas. Du détachement du réel, du détachement de la vie réelle. Mais parce qu'aujourd'hui tout le monde sait que c'est impossible, le réel, quand on le refoule, il refait toujours surface, ce texte permet donc d'ajouter une autre dimension à cette religion qui, en plus d'être la religion de la fin du mouvement, serait au bout du compte la religion de l'hypocrisie, car chacun semble invité à se comporter en permanence comme si rien ne l'affectait, sans plus aucune sensibilité. Le christianisme, d'après la compréhension habituelle de ce texte, et qui semble être devenu une donnée centrale, serait la religion de la sortie du monde. Or, c'est là que l'or dans une prédication devient assez précieux. Or, il se trouve que ce type d'interprétation de ce passage de Paul et de bien d'autres textes n'a rien à voir avec ce que je pourrais appeler le biotope de ce texte. Ce type d'interprétation, qui sera utile plus tard à une institution qui, pour se conserver elle-même, devra émettre des messages conservateurs et s'offrir très tôt des armées de surveillants qu'on a appelés épiscopes, pour détecter le moindre mouvement, Eh bien, ce type d'interprétation provient d'une philosophie qui n'avait pas grand-chose à faire avec ce que Paul essaie de dire à ses lecteurs de Corinthe. Mais avant d'essayer de mettre ce passage dans son réel contexte, on va préciser d'abord que même si ce texte voulait dire tout ce que je vous ai raconté en introduction, il serait loisible pour le chrétien de n'en tenir aucun compte. Pourquoi ? Parce que, contrairement à ce qu'encore une fois une certaine tradition qui a traversé toutes les églises a voulu faire croire, le christianisme n'a pas de loi. Les textes qu'a produit ce mouvement, même s'ils sont des textes de référence, des textes de témoignage, des textes constitués à un petit recueil qu'on a fini par appeler le Nouveau Testament, aucun de ces textes n'a une valeur juridique comme a pu l'être la Torah et ses règlements d'application. Le mouvement initial des premiers croyants au Christ ne pensait pas et ne voulait pas être une religion avec des codes. S'il gardait évidemment un lien avec la Torah, il s'était débarrassé des modalités de ses applications rituelles. Et la référence ultime de ce mouvement, c'était désormais celui dont on croyait qu'il était le devenir en chair et en os de la parole divine, qui était la parole devenue chair, un Christ, leur Christ, qui ouvrait pour ses premiers croyants des temps nouveaux. Et cette parole devenue chair n'avait, selon eux, nul besoin supplémentaire de se réinscrire sur de la pierre, sur du bois, sur des papyrus. Tout était accompli. La parole s'était inscrite dans la chair de ce Christ et désormais de ceux et de celles qui le suivent et qui se mettent à partager littéralement le corps de celui en qui la parole s'était définitivement inscrite. Partageant le pain, ils ne mangent en fait pas le corps, ils se nourrissent de la parole qu'ils n'ont plus besoin de lire, ni d'apprendre, ni de réciter, mais dont ils ont besoin pour qu'elle ne cesse pas jamais de les constituer. Les premiers croyants au Christ se considéraient eux-mêmes comme cette parole faite chair, ils étaient eux-mêmes la Torah devenue chair. Cela a été d'une nouveauté absolue, et c'est donc dans cette tempête mentale collective que Paul rédige sa lettre à ses amis de Corinthe. Paul n'a aucune intention, lui, qui a tant critiqué la loi, d'en dicter une autre. Il écrit dans le temps dans lequel il croit être, le temps qui ne passe pas, le temps éternel, mais dans lequel il reste quand même des bribes de l'ancien temps, celui qui passe, mais dont il affirme que ce temps-là est désormais très court. Le temps qui reste, dit-on, est très bref. Mais pour Paul, nous ne sommes plus censés vivre dans ce temps. Alors oui, les premiers croyants au Christ étaient un peu comme des personnes réunies dans une maison pour une fête qui bat son plein, mais qui tout à coup se rendent compte qu'autour de leur maison, il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus d'histoire, plus de vie, plus rien. Juste eux, dans leur maison, ayant du coup arrêté la musique, arrêté les danses, arrêté l'alcool, arrêté la séduction des uns envers les autres, et se demandant combien de temps il leur reste, se demandant pourquoi ils ont été préservés, alors que le monde autour d'eux a été effacé, et trouvant difficile de continuer à danser comme des poules sans tête continueraient à courir, trouvant compliqué de continuer à séduire, à boire, et commençant à adopter entre eux, après une période de stupéfaction, de nouvelles règles de comportement. Et ce que j'appelle, pour Paul, des règles provisoires d'une éthique d'urgence. Puisqu'il est brusquement devenu impossible de se projeter, autant essayer de ne pas souffrir de n'importe quelle entreprise qui comporterait en elle-même une projection vers le futur. En revanche, il s'agit de bien s'entendre en ne tenant plus aucun compte de nos situations sociales précédentes. Car celles-ci n'ont plus aucun sens. Marié ou pas, riche ou pas, esclave ou libre, femme ou homme, juif ou grec, comme Paul l'a dit dans un autre fameux passage qui est dans le même esprit et qu'on trouve dans ses lettres aux Galates ou aux Colossiens, tout ça, ça n'a plus aucune importance. L'éthique d'urgence ne consiste pas à sortir du monde, mais elle est adaptée à ceux qui, tout à coup, se sont mis à croire que tout était accompli et que la révélation finale allait arriver. Cette éthique du respect brut et sans condition du pardon total, de la veille permanente, comme on l'entend aussi dans d'autres textes, du dépassement des classes, des situations sociales et des genres, était le mieux à proposer pour ces personnes qui se croyaient brusquement sorties de l'histoire, qui pensaient qu'elles n'avaient plus le temps. Les recommandations de Paul étaient une invitation à se caler dans un esprit sabbatique, mais un esprit sabbatique extrême, car selon Paul, finalement, le septième jour n'allait plus jamais être suivi d'un huitième jour. Comme vous le savez, vous qui connaissez bien les modalités de l'émergence du christianisme, cette fin du temps n'a eu qu'un temps. Et ces textes, stimulés par l'urgence, ont été relus par la suite, une suite qui était tout à fait imprévue par les auteurs des textes, relus comme s'ils avaient été des textes faits pour le temps long, ce qui est, entre autres, une possibilité de définir ce qu'est un texte de loi. Ce qui est, vous le comprenez, un malentendu complet. Toutes les préconisations liées à la nécessité de ne plus chercher à changer de statut, ou celles qui invitaient au détachement du monde, quand elles ont été reprises par ceux qui avaient accepté d'être de nouveau dans l'histoire et dans le temps long, allaient malencontreusement justifier une morale en quelque sorte invivable et passablement hypocrite, car pour le coup, pas du tout adaptée à la réalité qui est toujours faite de mouvements, de désirs, de projections, d'espérances et de lendemains. C'est pour ça que ce texte me repousse, car en méprisant ces conditions d'émergence, on le fait parler à un monde qui n'est pas le sien. En revanche, il m'intéresse de nouveau quand il surgit comme ça dans une situation qui ressemble même de loin à la situation mentale dans laquelle se trouvaient les premiers croyants au Christ. Il est possible que nous ressentions nous aussi, face à l'épreuve collective et mondiale à laquelle nous sommes confrontés, la fin du monde telle que nous le connaissions. Bien entendu, il s'agit d'une illusion qui est provoquée par le fait que nos générations, même les plus âgées, n'ont jamais connu un tel type de phénomène. Bien entendu, les années 20 s'inscriront dans l'histoire comme un fait de pandémie mondiale qui a bouleversé une époque précise et qui a révélé à chacun que les pandémies ont toujours été une constante de l'existence humaine, quels que soient les virus ou les infections et leur niveau de mortalité. Mais nous qui y sommes, nous qui sommes maintenant, qui sommes dans ces années 20, ces fameuses années 20, ces nouvelles années folles, mais hélas, dans un autre sens, nous avons tendance à perdre le sens de l'histoire. Et nous pactisons volontiers avec la sensation d'un monde qui s'efface, tout en vivant dans une urgence permanente où toutes les règles changent à nos dépens. Si bien que, je dirais, pour une simple question de préservation de notre santé mentale collective, nous pourrions prendre un peu de l'esprit du temps de ce message de Paul, prendre avec précaution et provisoirement un peu du modèle de cette éthique d'urgence, et faire comme si le temps était court. Vivre donc un certain détachement, par exemple, pour nous épargner de remords de n'avoir pas pu accomplir ce que nous avions prévu de faire. Nous recentrer sur ce que nous sommes au-delà de nos situations professionnelles, sociales, maritales, de classe ou de genre. n'avoir plus que le souci de soi et de l'autre, sans aucune forme de procès. Tout le monde est censé être mis à un pied d'égalité, car tout le monde est devenu un faible potentiel et celui qui porte l'autre aujourd'hui pourra être un jour celui qui est porté. Vivre ce temps comme un temps particulier, dont nous pourrions sortir le meilleur en acceptant de reconnaître ce qu'il nous permet plutôt que ce qu'il nous enlève. Et oui, inventer des règles que nous savons provisoires, d'éthique, d'urgence brute, plutôt que de simplement accepter celles qui nous tombent dessus. Tout en gardant, évidemment, en tête ces quelques phrases des psaumes qui parlent de la fin du déluge, vous l'avez entendu, et évidemment ce passage du livre de Jonas, quand Dieu, tout bien considéré, finalement décide de ne pas détruire Ninive, la grande ville. Ce qui va susciter d'ailleurs, après, la colère et le dépit du prophète qui avait été obligé de jouer au prophète de malheur, alors qu'il ne voulait pas l'être au départ, et qui en plus voit sa prophétie de malheur ne pas se réaliser, le pauvre. Parce que tout le monde, tous les terrestres, du roi, de sa cour, du gros bétail jusqu'au petit bétail, tout le monde a manifesté des actes de repentance et est entré dans une sorte de sabbat radical en suspendant leur mouvement permanent et nocif dans lequel ils s'étaient eux-mêmes emprisonnés. Amen.